Chapitre 15. Le dimanche fut paisible chez les Hay, du moins jusqu'au moment où Henry James confronta Sherlock Holmes. Clara Hay était partie à l'église, non sans avoir informé tout le monde qu'elle consacrerait quelques heures à ses bonnes œuvres après le service. John Hay avait tenu compagnie à ses deux hôtes pendant le petit déjeuner, avant de se retirer dans son bureau pour se consacrer à ses propres passions littéraires et historiques. Dans l'immense hôtel particulier silencieux, on n'entendait que le bruit rassurant des sabots des chevaux et des roues des boguets dehors dans la rue, ainsi que le pas étouffé des domestiques qui, aussi discrets que des nonnes, vaquaient à leurs occupations dans la maison baignée de lumière et embaumant l'acajou. En fin de matinée, Henry James alla frapper à la porte de Jan Sigerson. Holmes, qui lisait près de la fenêtre en fumant du tabac de mauvaise qualité dans sa vieille pipe noire en terre, fit entrer l'écrivain et lui indiqua une chaise. James, lui-même muni d'un livre, prit soin de cacher la couverture et le dos pendant qu'ils s'asseyaient tous les deux.
« Clarence King sera là dans quelques heures, » déclara James.
« Oui, » répondit Holmes.
« Il me tarde de le rencontrer. »«
Je pense que vous devriez l'éviter. »
La voix douce de Henry James pouvait prendre une fermeté frôlant la dureté quand il le décidait, comme en cet instant.
« Je vous demande pardon. »
Holmes tapota le foyer de sa pipe contre un cendrier de cristal pour en retirer les cendres.
« Je crois que vous ne devriez pas imposer cette farce à la maisonnée, » reprit James.
John Hay restera peut-être dans son bureau jusqu'à l'heure du thé.
« Je suggère que vous boucliez vos bagages et partiez tant que vous le pouvez. »
« Et pourquoi ferais-je une chose pareille ?
Henry Adams ne sera pas rentré avant la semaine prochaine. »
J'ai à peine commencé mon enquête concernant le meurtre de sa femme.
Assez de balivernes. Clover Adams était affligée d'une nature dépressive. Elle ne s'était jamais remise de la mort de son père. La mélancolie était un trait de caractère familial, comme l'atteste le suicide de son frère Ned. Faire de ce drame un mystère, c'est de la fumisterie.
Holmes paraissait intéressé par les propos de l'écrivain.
« Qu'en est-il alors de la carte disant « Elle a été assassinée, envoyée tous les ans à… »«
Baliverne également !»« Je ne vous laisserai pas rouvrir de vieilles blessures. »«
Je ne sais pas du tout pourquoi je me suis prêté à vos délires pendant si longtemps, mais peu importe !»«
Cela doit cesser. »« Aujourd'hui, faites vos bagages et allez-vous-en. » »«
De mon côté, je trouverai quelque chose à dire aux Hay, à Clarence King et aux autres. » Et je partirai à mon tour de bonne heure demain.
Vous ne me croyez donc plus capable de résoudre ce mystère ? Demanda Holmes, bourrant sa pipe avant de la rallumer.
Je ne crois plus que vous soyez Sherlock Holmes.
Voilà, songea James. C'était dit.
Son interlocuteur leva les yeux, manifestement surpris et l'air encore plus intéressé.
James. « C'est vous qui m'avez reconnu, malgré mon déguisement de Sigerson, près du pont Neuf. »«
Je me suis trompé. »«
Ou peut-être que je vous ai rencontré à la garden party de Madame O'Connor il y a 4 ans, mais que vous étiez aussi déguisé à cette occasion. »«
Déguisé en… »«
En Sherlock Holmes. »«
Un personnage de fiction. »«
Oh oh ! Donc vous êtes maintenant d'accord avec moi pour dire que Sherlock Holmes n'existe pas vraiment ?»
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, James ?
Ceci.
L'écrivain tendit le volume brun des aventures de Sherlock Holmes.
Vous permettez ? Demanda l'homme à la pipe.
Il prit délicatement le livre entre ses longs doigts robustes et se mit à le feuilleter.
J'avais entendu dire que l'édition américaine des nouvelles de Watson, parue dans le Strand, devait sortir cette année, mais je ne me doutais pas qu'elle serait publiée si tôt.
Le mois dernier.
Précisa James avant de regretter d'avoir parlé.
Les illustrations de Sidney Paget sont très bonnes, n'est-ce pas ?
Holmes avait un ton légèrement amusé.
Si elles sont censées vous représenter, elles vous flattent, observa James.
Oh, absolument.
Holmes retira sa pipe de sa bouche et rit.
Mais voyez-vous, je n'ai jamais rencontré Monsieur Sidney Paget. Et je ne me suis jamais laissé prendre en photo.
Paget a utilisé son frère comme modèle pour son Sherlock Holmes, si j'ai bien compris.
Son frère est un illustrateur encore plus célèbre. D'après Watson, c'était lui que le Strand voulait embaucher plutôt que Sidney, mais la lettre est arrivée au mauvais Paget. James contempla son interlocuteur d'un regard vide, jusqu'au moment où il ne put plus supporter le silence. La fumée du mauvais tabac le fit tousser avant qu'il ait pu formuler une phrase.
« J'ai acquis la conviction que vous êtes un individu dérangé. »
Se faisant passer pour le personnage de fiction nommé Sherlock Holmes, qui lui-même se fait passer pour un faux explorateur du nom de Jan Sigurdsson.
Ça alors ! S'écria Holmes, sortant une fois encore sa pipe de sa bouche et souriant largement.
Très bien, James. Vraiment très bien.
Cette hypothèse est tellement plus sensée que la mienne, selon laquelle je n'existe tout simplement pas à l'extérieur de ces petites fictions, dit-il en brandissant le livre.
Vous l'admettez donc ?
Henry James sentait comme un poids étrange, désagréable et persistant lui comprimait la poitrine.
Admettre que je suis dérangé ? Je peux difficilement me défendre de cette accusation.
Admettre que je suis quelqu'un d'autre que le personnage peut-être, sans doute, fictionnel de Sherlock Holmes.
Hélas, je ne peux l'avouer, monsieur. Soit je suis le vrai Sherlock Holmes, soit j'en suis le simulacre fictionnel. C'est là la triste alternative qui s'offre à moi pour le moment.
James éprouva un accès de panique. Son interlocuteur était dément, voire dangereux. À l'instant même, il représentait peut-être une menace physique.
« Oh, je ne crois pas être dangereux », reprit Holmes en tirant sur sa pipe.
« Pas pour vous, du moins, monsieur James. » C'était comme s'il avait saisi au vol les pensées de l'auteur.
« Comment avez-vous trouvé les histoires de Watson ?» demanda Holmes, refermant le livre et le posant sur la table à côté de James.
« Elles sont grotesques. »
Holmes éclata de rire encore une fois.
C'est donc aussi votre avis. Ce pauvre Watson passe un temps fou sur ses chroniques pour satisfaire aux critères littéraires de Conan Doyle. Mais je doute que l'un ou l'autre comprenne comment transformer la réalité de mes enquêtes en œuvres d'art.
Voyez-vous, James, mes meilleures enquêtes sont des œuvres d'art, sans les fioritures fictionnelles et le mélodrame.
Vous admettez donc que ces nouvelles sont d'une qualité littéraire inférieure,
des historiettes trop tarabiscotées.
Holmes parut accuser le coup, mais n'en répondit pas moins d'un ton aimable.
« Tout à fait, mon vieux. »
Il rouvrit le livre.
« Je vois que Watson a inclus l'aventure qu'il a intitulée « Les êtres rouges ». Prenons-la comme un exemple de fiasco littéraire, si vous voulez bien. »
« C'est ainsi qu'elle m'est apparue.
Et pour cause. »
« Franchement, vous trouvez vraisemblable ?» Holmes dut tourner les pages et jeter un coup d'œil à la nouvelle.
Que cette Violette Hunter se présente à notre appartement et accapare notre temps, à Watson et moi, pour nous demander si elle doit accepter un obscur poste de gouvernante à la campagne, aussi étrange qu'aient été les exigences de son employeur.
Vous trouvez vraisemblable que je perde mon temps à écouter cette demande de conseil ?
Conseil inutile, puisque, vous l'aurez peut-être remarqué, l'importune avait déjà pris la décision d'accepter le poste.
Totalement invraisemblable. Acquiesça James. Le fait d'être d'accord avec Holmes lui procurait une sensation étrange, frisant le vertige. À moins que ce ne soit l'inverse.
Cette Violette Hunter, ce n'était pas son vrai nom évidemment, n'était pas ma cliente.
Ah bon ? James aurait ravalé son exclamation s'il l'avait pu.
Non. Notre client, la personne qui est venue nous demander de l'aide ce jour froid du début du mois de mars 1886, était le monsieur Fowler, dont fait mention Watson, mais qui n'est jamais directement présenté au lecteur.
Monsieur Fowler,
répéta James malgré lui.
Le fiancé de la recluse Alice Rucastle,
l'homme aperçu dans le miroir.
Celui qui, nous raconte Watson, finit par épouser mademoiselle Rucastle et s'installe avec elle à l'île Maurice.
Holmes sourit, sa pipe à la bouche, d'une manière presque sardonique.
Lui-même. Bien que Monsieur Fowler, je l'appellerai Peter puisque c'était le prénom de ce gentleman, n'ait pas épousé Mademoiselle Rucastle une fois celle-ci libérée et entrée en possession de sa fortune, et ne soit pas devenu, comment dit Watson déjà ?
Il feuilleta le volume.
Ah oui, fonctionnaire du gouvernement à l'île Maurice.
Cela a-t-il la moindre importance ou le moindre rapport avec votre incarnation frauduleuse de Sherlock Holmes? Seulement si vous souhaitez comprendre le vaste écart entre la vie de ce Sherlock Holmes de fiction et ses aventures telles qu'elles sont racontées.
Je ne vois pas l'utilité de discuter de l'une ou de l'autre, dit Henry James.
Holmes hocha la tête, mais ôta la pipe de sa bouche et se mit à parler lentement et à voix basse.
Peter Fowler est venu nous trouver, le docteur Watson et moi, en mars 1888. Il avait un problème d'ordre domestique, c'est vrai, mais dont j'ai cru à l'époque qu'il comblerait mon besoin de mener un travail de détective. À la fin, voyez-vous, Monsieur Fowler, un charmant gentleman londonien, n'a pas épousé Alice Rucastle ni vécu longtemps heureux auprès d'elle. La vérité, le genre de vérité que Watson fait souvent tant d'efforts pour éviter, c'est qu'Alice Rucastle a lacéré avec les dents la gorge de son ancien fiancé. Elle l'a assassiné.
Dieu du ciel,
dit James dans un souffle. Monsieur Fowler était l'heureux fiancé d'Alice Rucastle, un nom choisi par Watson évidemment. Jusqu'au moment où ce qu'il avait décrit comme la plaisante, quoique fréquente inconstance de sa promise, s'était transformé en une grave congestion cérébrale, quoi que ce puisse être. Watson, comme la plupart des médecins de notre époque d'ignorance, ne jure que par les congestions cérébrales, mais pas un docteur sur mille n'est capable d'en décrire la cause ou le remède.
Mais Mademoiselle Rucastle, ou quel que soit son vrai nom, en souffrait ?
Demanda James. La faiblesse qui le poussait à écouter des histoires bizarres était presque égale à son penchant pour les écrire.
Oui, mais c'est son petit frère Edward qui en est mort, dit Holmes.
Édouard,
répéta James. Il se remémora les phalènes volant autour de la lampe alors qu'il terminait la lecture du recueil de nouvelles tard la veille au soir.
Le petit garçon à la tête trop grande et au comportement pervers. L'objet des efforts pédagogiques de Mademoiselle Hunter dans son rôle de gouvernante.
Holmes rit encore une fois.
Mademoiselle Violette Hunter n'a pas été engagée comme gouvernante. Le jeune Édouard avait déjà été tué au moment où Monsieur et Madame Rucastle l'ont embauché, et ce, uniquement pour personnifier leur fille Alice, retenue prisonnière.
Attendez, dit Henry James levant une main manucurée.
Vous êtes en train de me dire que Violette Hunter savait dès le départ que sa seule tâche serait d'incarner la fille des Rucastle, la fiancée de Monsieur Fowler?
Exactement.
Holmes regarda par la fenêtre l'ombre des feuilles imprimées sur Saint John de l'autre côté de la rue.
Violette Hunter n'était qu'une fille des rues. En public, elle n'aurait pas été capable d'incarner une dame, même pas une modeste gouvernante.
Monsieur Geoffroy Rucastle, qui d'ailleurs n'est pas le méchant recréé par Watson, mais allait bientôt connaître lui aussi une mort violente, a annoncé dès le début à la jeune londonienne qu'elle serait payée 30 livres par mois, et non par trimestre, comme le dit Watson, pour se faire passer pour Alice, se couper les cheveux comme elle pendant sa terrible maladie, porter sa robe bleue, s'asseoir devant la fenêtre, où Peter Fowler pourrait, de loin, la voir rire, manifestement remise de sa folie.
« Sa folie ?»
répéta James.
« Oh oui, j'ai oublié de préciser ce petit détail, n'est-ce pas ?»
C'est la raison pour laquelle Watson dit que je ne devrais jamais écrire le récit de mes aventures. Quand le père d'Alice, c'était son vrai prénom, soit dit en passant, quand son père a compris qu'elle ne recouvrerait jamais la raison, il a écrit à Peter Fowler, en imitant tant bien que mal l'écriture de sa fille, pour rompre les fiançailles. Mais Fowler n'a jamais cru que la lettre venait d'Alice.
Alice Rucastle était folle.
Folle à lier, confirma Holmes sans la moindre trace de compassion dans la voix. Pendant des années, sa démence, quoique sérieuse, s'était manifestée de manière sournoise. Mais au cours de l'hiver de ses fiançailles avec Peter Fowler, à l'insu de ses parents qui n'auraient jamais consenti au mariage, la folie étant héréditaire, elle avait été sujette à des crises de plus en plus sévères et jusqu'à des accès de violence que les Rucastle avaient décrits à Fowler et au monde comme une congestion cérébrale.
Mais Monsieur Fowler aurait certainement compris,
dit James. Il tenta d'imaginer écrire cette histoire, mais n'y parvint pas. Elle était trop sensationnaliste. C'était là le domaine hallucinatoire d'un Wilkie Collins, pas le sien.
Compris que dans sa folie violente,
Alice Rucastle avait tué et en partie dévoré son petit frère de 2 ans? J'en doute.
Dieu du ciel! Mais vous étiez au courant de cette abomination?
Dès l'origine. Loin d'être un scélérat cherchant à s'accaparer un héritage ou quelle que soit l'imbécilité inventée par Watson pour déformer l'histoire, le prétendu Jeffro Rucastle, Jethro Dawkins de son vrai nom, était un père si aimant et indulgent qu'il ne supportait pas l'idée que sa fille Alice, la meurtrière de son seul fils, héritier du nom et du titre de famille, soit enfermée dans un asile d'aliénés, d'où l'aile verrouillée, la porte barricadée.
Mais si Violette Hunter n'a pas découvert ces choses, si elle était déjà au courant de la folie d'Alice, de la raison pour laquelle cette partie de la maison était fermée à clé,
c'est Peter Fowler, pas la prostituée Violette Hunter, qui a insisté pour attirer les Rucastle en ville ce soir de mars 1886, dit Holmes d'un ton sinistre. Il nous a envoyé un télégramme déclarant son intention de sauver sa bien-aimée Alice. Je lui ai aussitôt répondu en lui ordonnant de ne pas s'approcher de Hotchkiss Hall. Il n'a pas reçu mon câble puisqu'il avait déjà quitté son hôtel de Wells. Et Watson et moi avons filé à Wookie Hall aussi vite que possible.
À Wookie Hall?
Oui, bien sûr, non loin des célèbres grottes dans le Somerset. Fowler était descendu au Wookie Hall Hotel à Wells. Ceux que Watson nommait les Rucastle étaient la célèbre famille Dawkins. Le père d'Alice était Jethro Dawkins, Lord Hotchkiss de Hotchkiss Hall, cousin du vicaire de Wookie et prétendu héros du Transvaal pendant la guerre des Boers de 1881.
Même moi, qui suis américain, j'ai entendu parler de la sorcière de Wookie Hall, dit James.
Sa voix résonna étrangement, même à ses propres oreilles. Il avait du mal à croire à ce qu'il venait de dire. Henry James, à l'instar de son frère William et de leur père, avait toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. La sorcière de Wookie Hall est une stalagmite de calcaire qui fait peur aux touristes depuis le XVIIIe siècle, dit Holmes d'un ton plat. Le vrai monstre de Wookie Hall, c'est Alice Dawkins, et ça s'est passé il y a 7 ans. Henry James plissa les yeux.
Vous dites que Peter Fowler a été assassiné?
Dans la nouvelle, il est écrit que M. Rucastle, ce Dawkins, dites-vous, était mort de mort violente. Il reste encore beaucoup de drames inexpliqués. Nous ne sommes arrivés que quelques minutes trop tard, Watson et moi. Fowler avait apporté une grande échelle, risqué la dangereuse traversée du toit de vieilles tuiles dans l'obscurité et s'était glissé par le petit vasistas dans la chambre d'Alice. Elle est sûrement restée assise en silence sur son lit pendant qu'il lui retirait ses menottes et ses chaînes, tout en lui murmurant des mots d'amour. Puis elle l'a attaqué, lui lacérant la gorge avec ses dents et ses ongles. Elle avait commencé à lui dévorer le cœur quand Dawkins, son père, s'est précipité dans la pièce. Par pure coïncidence, la prostituée qui le suivait de près portait la robe bleue d'Alice ce soir-là. Les yeux écarquillés, James attendit la suite. Bien que tout ça fût sûrement de la pure invention, il avait du mal à respirer. Monsieur Dawkins, Lord Hotchkiss, avait apporté un pistolet, continua Holmes d'un ton monocorde. Lors d'un entretien que j'avais eu avec lui la semaine précédente, il m'avait avoué qu'il n'aurait jamais le courage de l'utiliser contre sa fille, quels que soient les actes abominables qu'elle pût commettre. Il disait vrai. Alors que Watson et moi courions dans le couloir pour les rejoindre, Dawkins a posé le pistolet contre sa tempe et appuyé sur la détente.
Et Mademoiselle Violette Hunter, demanda James,
la fausse gouvernante. Folle, répondit Sherlock Holmes. Elle s'est mise à hurler en découvrant ce qui se passait dans la chambre d'Alice Dawkins et n'a plus cessé de hurler depuis. C'est Lady Hotchkiss qui paie l'asile où elle est internée.
Et Carlo?
Carlo?
Dans Les Hêtres Rouges, Watson parle de Carlo, le grand dog qui surveillait le domaine la nuit et qui avait déchiré la gorge de M. Rucastle à la fin.
Holmes eut un petit sourire. Il y avait bien un dog à Hotchkiss Hall. Il s'appelait Barney. Il avait 15 ans et s'il avait croisé le chemin d'un cambrioleur la nuit, il se serait roulé sur le dos pour se faire gratouiller le ventre. La seule infamie jamais commise par Barney, d'après ce que Jethro Dawkins nous avait raconté à Watson et à moi 3 jours avant sa mort, avait été de grignoter par jeu un des animaux en peluche de Lady Hotchkiss.
Mais
dans les hêtres rouges ? Watson écrit qu'il avait dû sortir son revolver de service et, selon son expression, lui brûler la cervelle, dit James d'une voix tendue.
C'était le revolver de M. Dawkins, et c'est moi qui en ai fait usage. Alice Dawkins était occupée à dévorer son père quand j'ai ramassé le revolver et lui ai explosé la cervelle.
Les deux hommes demeurèrent silencieux pendant plusieurs minutes. Enfin, Sherlock Holmes, ou l'homme prétendant être le Sherlock Holmes imaginaire, reprit la parole.
Je crois comprendre pourquoi Watson s'est senti obligé de raconter l'affaire de Bookie Hall, qu'il a intitulée « Les hêtres rouges ». Elle le hantait, perturbait son sommeil.
C'est dans la nature du docteur Watson d'essayer d'adapter les événements pour en faire des histoires simples où s'affrontent le bien et le mal. Et si j'avais été à sa place, j'aurais passé toute cette aventure sous silence.
Henry James regarda son interlocuteur dans les yeux.
Vous vous rendez compte, bien sûr, que tout ce que vous venez de me raconter semble absolument démentiel.
Parfaitement, concéda Holmes. Le détective consulta sa montre.
John Hay a prévenu qu'un déjeuner léger serait servi dans le jardin d'hiver à midi et nous a enjoint à commencer même s'il était encore occupé.
Vous m'accompagnez, monsieur James ?
J'attendrai plutôt le thé avec Clarence King et le dîner avec l'émissaire norvégien, monsieur Holmes.
Sans un mot de plus, il retourna dans sa chambre et s'allongea sur le dessus de lit d'un blanc immaculé.